Bonjour et bienvenue pour ce premier numéro de There is no alternative. Donc Transistor a déjà plusieurs émissions d'actualité politique, géopolitique, comme Sans langue de bois, Il regarde le monde tourner, etc. Mais il manquait quand même une émission d'économie digne de ce nom. Donc nous allons nous intéresser ici à de grands thèmes économiques de l'actualité et de la recherche, mais bien sûr dans une perspective qui ne soit pas trop technique, qui au contraire essaye de faire comprendre plutôt l'esprit des mécanismes économiques. Nous inviterons également pour certains numéros spéciaux des économistes pour qu'ils nous parlent de thèmes sur lesquels ils travaillent. Nous sommes loin d'être par ailleurs des néolibéraux à tout craint, comme le titre de notre émission pourrait le suggérer à première vue, mais en fait nous avons repris cette expression célèbre de Margaret Thatcher qui exprime un peu son intransigeance, il n'y a pas d'alternative, c'est-à-dire par rapport aux mesures qu'elle prenait, qui est devenue quand même le symbole d'un libéralisme assez dur. Et comme depuis plus de 30 ans à présent, les néolibéraux sont mainstream en économie, on peut se demander maintenant, après la crise de 2008, si la question se repose pas à nouveau, c'est-à-dire « Is there no alternative ?»
There is no alternative.
Quel est vraiment le problème ?
Qu'ils fassent des choix.
Un problème économique, mais aussi un problème moral.
You'd rather have the poor poorer, provided the rich are less rich.
Non.
Dans ce premier numéro de TINA, le doux nom de There is no alternative, nous avons un programme chargé et qui concerne la fraude fiscale et son lien avec la dette publique. Nous avons choisi ce thème pour deux raisons. Dans un contexte de crise et de ressources budgétaires limitées, on est en train de bricoler le budget avec des bouts de chandelle et de scandales qui éclatent périodiquement, comme l'affaire Cahuzac sur laquelle nous reviendrons. Le gouvernement fait une chasse terrible aux évadés fiscaux, et c'est ce dont je vais vous parler dans un premier temps, et je vais même vous apprendre comment frauder si c'est ce que vous désirez.
Et puis ensuite, un peu plus du côté du monde de la recherche, je vous présenterai plus rapidement un article très intéressant d'un jeune économiste français, Gabriel Zucman, qui vient de paraître il y a peu sur l'évasion fiscale, avec une méthode assez novatrice, très intéressante. Il fait aussi le lien avec la dette et toutes les questions de politique publique qui en découlent. Donc je vous expliquerai pourquoi, en réalité, la zone euro est créditrice nette, comme les mauvaises langues le prétendent.
Ce serait un complot. La fraude fiscale est revenue sur le devant de la scène, mais figurez-vous, elle est aussi vieille que l'humanité, en tout cas, aussi vieille que les États. Il est toujours de bon ton de commencer par une référence historique. Aristote, dans les économiques, évoquait déjà l'existence de mécanismes d'évitement de l'impôt que nous pouvons assimiler à notre fraude fiscale, à la fraude fiscale que nous connaissons. À l'époque athénienne, de grands propriétaires terriens omettaient parfois volontairement de déclarer des biens, voire graisser un petit peu la patte des émissaires de la cité venus percevoir l'impôt afin de réduire les sommes dues. Vous voyez donc que l'ami Jérôme Cahuzac, en 2012, n'a absolument rien inventé en la matière. Toutefois, la fraude fiscale, si elle ne date pas d'hier, n'a pas occupé un espace central dans les débats de politique économique. Les gouvernants de tout temps ont connu son existence, et le fisc a toujours fait ce qu'il avait à faire, c'est-à-dire traquer les fraudeurs. Mais ce n'était pas un enjeu majeur qui revenait dans le débat, et notamment sur la scène médiatique. Les budgets des États, ainsi que leur produit intérieur brut, deviennent de plus en plus importants au cours du XXe siècle, jusqu'à atteindre aujourd'hui, pour vous donner un ordre de grandeur, le PIB de la France, c'est 2000 milliards d'euros.
Oui, donc c'est vraiment un chiffre quand même difficile.
Conséquent, d'autant plus que le PIB de la France, dans les années d'après-guerre, atteignait uniquement 300 milliards d'euros.
Oui, donc c'est vraiment un chiffre qu'on a du mal à se représenter.
Voilà. Ça s'est décuplé en trois quarts de siècle. Ça s'est décuplé. Le budget de l'État, c'est-à-dire décomposé en trois parties, on vous mettra ça sur le site, vous pouvez consulter sur la page de l'émission. Le budget de l'État, des collectivités territoriales et de la sécurité sociale atteint 950 milliards d'euros. On sait qu'il est très difficile d'estimer la part, donc la valeur relative de la fraude fiscale en pourcentage du PIB, mais une chose est certaine, dans la mesure où les budgets et le PIB ont pris une importance de plus en plus grande, les sommes en jeu dans la fraude fiscale deviennent absolument colossales en valeur absolue. Certaines études, comme l'INSEE, qui est notre organisme statistique national, estiment que la fraude fiscale atteint 60 milliards d'euros, et d'autres études réalisées notamment par des syndicats de la fonction publique estiment qu'elle atteint 80 milliards d'euros, ce qui peut représenter, si vous avez fait le calcul, près d'un quart du budget de l'État.
Avant de peut-être aller plus loin et se demander les conséquences vraiment de la fraude fiscale, ce dont je vous parlerai un peu après, on va d'abord essayer peut-être de comprendre plus exactement ce que veut dire cette expression que les médias emploient vraiment de manière parfois même excessive, notamment depuis 2012 et justement l'éclatement de l'affaire Cahuzac dont vous avez tous entendu parler.
Tout à fait. Le plus souvent, la fraude fiscale, c'est une soustraction au paiement d'un impôt, c'est la définition brute. Mais le plus souvent, c'est la soustraction au paiement des quatre impôts majeurs portant sur le revenu des particuliers. Par particulier, j'entends les personnes physiques comme vous et moi, les entreprises et les associations. Les quatre impôts majeurs sont bien entendu l'impôt sur le revenu des personnes, l'IRPP, la CSG, qui est la contribution sociale généralisée et qui s'applique à 8% de tout revenu brut, l'impôt sur les sociétés qui ne nous concerne pas directement mais qui concerne les sociétés et qui taxe tout simplement le chiffre d'affaires des sociétés, et enfin l'ISF, l'impôt de solidarité sur la fortune. Je veux tout de suite démonter un mythe, la fraude à l'ISF passe pour la plus immorale des fraudes parce que ce sont entre guillemets les plus riches qui fraudent alors qu'ils sont les plus dotés, mais elle n'a un effet que très faible sur les finances publiques puisque l'ISF rapporte 4 milliards d'euros uniquement, là où la TVA, on y reviendra, rapporte 130 milliards et la CSG 88 milliards. Donc l'ISF, chasser
oui,
la fraude à l'ISF.
On en parle beaucoup, mais finalement.
Voilà, on en parle beaucoup, mais ça n'a au final que peu d'effet sur les finances publiques. Toutefois, ça a été longtemps sous-estimé et on en parle peu, mais la fraude fiscale concerne également les impôts sur la consommation, les deux principaux étant la TVA, que j'ai déjà mentionné, qui est en fait un impôt compris dans le prix de tous les biens de consommation et les services qu'on achète. Elle est passée à 20% désormais, et également la TIPP, qui est une taxe sur les produits pétroliers, qui est en fait une taxe dans le prix de l'essence. Alors, vous me direz, ça a l'air assez compliqué, comment peut-on frauder une taxe qui est comprise dans le prix de l'objet qu'on achète? En fait, c'est assez problématique, on ne sait pas bien, mais les commerçants, volontairement ou involontairement, omettraient parfois de reverser une partie de la TVA au trésor public. Une étude de la Commission européenne du 18 septembre 2013 jette un véritable pavé dans la mare et annonce qu'en France, la fraude à la TVA atteindrait 32 milliards d'euros par an, ce qui est absolument considérable et qui représenterait la moitié de la fraude fiscale si on s'en tient à l'estimation de l'INSEE. Tous les pays européens sont concernés, notamment l'Italie et l'Allemagne, et je tiens à rappeler que le déficit public annuel de la France est de 46 milliards. Si on arrivait à reprendre déjà les 32 milliards d'euros de la fraude à la TVA, pas mal de problèmes seraient résolus.
Oui, donc on arrive maintenant à peut-être ce qui est la partie qui intéressera le plus nos camarades, peut-être. C'est-à-dire, comment les fraudeurs fraudent-ils? Le parfait manuel du fraudeur, Cyril?
Tout à fait, c'est la partie la plus croustillante. Vous avez devant vous plein de moyens pour réveiller le Jérôme Cahuzac qui sommeille en vous. Je tiens d'abord à dire qu'il y a autant de moyens que de fraudeurs. On trouve le fraudeur organisé, les grandes entreprises dont je vais vous parler, et d'autres petits fraudeurs en herbe dont vous ferez peut-être bientôt partie grâce à moi. Le grand classique est la fausse déclaration ou la déclaration incomplète, notamment pour les revenus du capital, même si les étudiants en possèdent généralement peu. Il est difficile de cacher à l'administration fiscale, je ne vous le cache pas, de cacher un bien immobilier comme un appartement ou une résidence secondaire, puisque ne serait-ce que sur les listes électorales, vous allez vous faire avoir. Mais il est beaucoup plus facile de cacher quelques petites actions par-ci par-là, ou un compte à l'étranger. Là encore, je voudrais démonter un mythe. Le compte à l'étranger, ce n'est pas forcément le fait de riches industriels ou d'hommes politiques enclins à la magouille, mais tout simplement des travailleurs frontaliers ont des comptes pour recevoir leur salaire dans la monnaie dans laquelle leur salaire est versé. C'est notamment le cas pour les frontaliers travaillant en Suisse, et tous les Alsaciens, Franc-Comtois et Savoyards ne sont pas forcément des Jérôme Cahuzac. On parle aussi beaucoup dans les médias de l'optimisation fiscale. L'optimisation fiscale, c'est en quelque sorte la petite sœur de la fraude fiscale, mais j'insiste bien sur le fait qu'il ne s'agit pas de fraude à proprement parler. Le caractère moral ou non de l'optimisation fiscale se discute volontiers, et nous le ferons peut-être dans une émission ultérieure, mais ce n'est pas de la fraude fiscale, car la personne ou l'entreprise qui fait de l'optimisation fiscale utilise toutes les ressources pour payer le moins d'impôts, mais toutes les ressources légales. C'est malheureux à dire, mais les entreprises qui font de l'optimisation fiscale ne sont pas hors la loi.
En fait, l'optimisation fiscale, c'est davantage un problème qui serait à régler entre les États eux-mêmes plutôt que
tout à fait.
Les individus.
Tout à fait. Ce serait un problème à régler notamment à l'échelon européen, mieux coordonner les niveaux d'imposition, par
fiscaux,
exemple.
Ouais.
Voilà, les systèmes
les
fiscaux, afin que d'éviter les situations que l'on appelle de dumping, des situations où une entreprise profite d'une situation fiscale plus avantageuse ailleurs. Typiquement, une entreprise qui fait de l'optimisation fiscale va déclarer des bénéfices effectués dans toute l'Europe, voire ailleurs, dans un pays où elle n'effectue pas réellement ce chiffre d'affaires. Je prends l'exemple d'Amazon qui déclare 15 milliards d'euros de chiffre d'affaires au Luxembourg. C'est en réalité tout son chiffre d'affaires européen. Vous imaginez bien que les Luxembourgeois, aussi riches qu'ils soient, ne peuvent réaliser à eux seuls 15 milliards d'euros de chiffre d'affaires pour Amazon. En réalité, elle y réalise quelques centaines de millions de chiffre d'affaires et bénéficie d'un impôt sur les sociétés extrêmement faible. La fraude fiscale n'est toutefois pas que le fait des multinationales, et comme je le disais, en vous sommeille peut-être un petit Jérôme Cahuzac amateur. Les moyens pour frauder ne manquent pas, tout simplement en embauchant quelqu'un pour faire du travail au noir. Ça peut commencer très vite, hein, des cours particuliers. En faisant ça, en vous faisant payer en espèces de personne à personne, vous vous soustrayez à la TVA, à l'impôt sur le revenu, à la CSG, à l'impôt sur les sociétés en quelque sorte aussi, puisque vous n'avez pas créé de société pour faire une activité rémunérée, ce que vous devriez faire normalement, et vous ne cotisez pas pour la sécurité sociale et pour la retraite notamment. L'économie souterraine, quand vous achetez une substance mystérieuse qui fait rire pour votre soirée du samedi soir, là encore, vous vous soustrayez à l'impôt sur le revenu, à la TVA, et en outre, nous l'avons tous déjà fait, rester sur le foyer fiscal de ses parents plutôt que de faire soi-même sa propre déclaration d'impôt, ce qui devient obligatoire à 20 ou 21 ans, je ne sais plus, vous fait généralement économiser de l'argent aux parents.
Donc, sachant ça, évidemment, le gouvernement n'est pas très favorable à la fraude fiscale. Et
non.
Qu'est-ce qui est mis en place, peut-être, pour la combattre ?
Alors, premièrement, la fraude fiscale est un délit. Donc, ce qui est mis en place pour la combattre, c'est tous les moyens que la justice a à sa disposition. C'est un délit, donc. Il peut atteindre, en théorie, jusqu'à 500 000 euros d'amende et 5 ans d'emprisonnement. Bon, vous imaginez bien qu'en ne vous déclarant pas sur votre foyer fiscal propre et en restant dans le foyer fiscal de vos parents, vous ne risquez pas 500 000 euros d'amende. Le problème avec la fraude fiscale, c'est qu'elle a une prescription très rapide. Au bout de 3 ans, la fraude fiscale, c'est fini. Donc le fisc doit travailler avec une extrême rapidité. Or, les inspecteurs des impôts ne sont pas assez nombreux, c'est ce qui a été révélé avec l'affaire Cahuzac, ils ne sont pas assez nombreux pour s'occuper de tous les contribuables fraudeurs. Souvent même, une enquête en cours sur un fraudeur fiscal qui est probablement avéré tombe tout simplement à l'eau, puisque le délai de prescription tombe. De plus, la fraude fiscale, comme je le disais, peut concerner tout le monde, et seuls les plus gros contribuables font l'objet de contrôles fiscaux. L'administration ne va pas mobiliser 3 inspecteurs des impôts payés 8000 euros par mois pour récupérer les 200 euros non déclarés sur votre compte écureuil caisse d'épargne. De plus, la fraude fiscale, maintenant, j'ai envie de dire, les politiques l'ont un petit peu dans le collimateur. Elle a fait l'objet de nombreux rapports, dont l'objet est de chiffrer avant tout les pertes pour le budget de l'État. Les politiques se sont saisis de la question. On a de nombreux essais, notamment ceux d'un député PS nommé Yann Gallu, qui est rapporteur du projet de loi sur la fraude fiscale. Le gouvernement de Jean-Marc Ayrault, en outre, après l'affaire Cahuzac, a voulu se saisir de la question avec fermeté et a annoncé l'augmentation des moyens consacrés à la lutte contre la fraude fiscale, en premier lieu en recrutant des inspecteurs des impôts supplémentaires. Il n'était que 200, or nous sommes 60 millions de Français, je le rappelle. L'objectif est d'améliorer les sommes récupérées par les redressements fiscaux. Chaque année, mine de rien, le fisc récupère 16 milliards d'euros, ce qui est quand même un quart du total de la fraude fiscale.
Donc finalement, c'est pas si mal quand même.
C'est pas si mal, mine de rien, 16 milliards, ça pourrait être pire, et d'autres pays font beaucoup moins bien en la matière. La Grèce, l'Italie, les pays du sud de l'Europe, et c'est d'ailleurs entre guillemets ce qui a causé de sérieux problèmes financiers là-bas. À l'échelle internationale, enfin, la lutte contre la fraude fiscale commence à s'organiser. Les banques du monde entier doivent désormais signaler à l'administration fiscale américaine et américaine seulement tout avoir détenu par un citoyen américain. C'est ce qui s'appelle FATCA, et c'est ce que l'Europe essaye d'imiter. L'OCDE en 2005 a mis en place ce qui s'appelle le modèle de convention sur l'échange de renseignements en matière fiscale, c'est un nom barbare, et ça vise tout simplement à limiter le secret bancaire avec le secret que l'on sait, étant donné que ça a été mis en place en 2005, mais le secret bancaire commence à reculer depuis l'affaire Cahuzac et d'autres affaires en Europe. La Suisse annonce son intention de le limiter, ainsi que l'Autriche et le Luxembourg.
Donc, malgré tout, on peut quand même le dire, pour les fraudeurs fiscaux en herbe qui nous écoutent, vous pouvez essayer de frauder un peu si vous avez suivi tous nos conseils, entre guillemets.
Voilà.
N'essayez peut-être pas de le faire à l'échelle de Jérôme Cahuzac, parce que là, il pourrait vraiment vous arriver
Vous aurez des ennuis, et si vous prétendiez une carrière politique, elle risque de prendre fin beaucoup plus tôt que prévu.
C'est assez déconseillé.
Voilà, c'est parce que la fraude fiscale a une conséquence politique avant... Enfin, politique en même temps que financière, c'est un enjeu de justice sociale. Et on comprend très bien que les plus démunis de nos concitoyens refusent de payer alors qu'ils constatent que les plus riches fraudent l'impôt et parfois en toute impunité.
C'est aussi ce qui le rend très médiatique, justement.
Tout à fait, tout à fait.
L'indignation.
Tout à fait. Il en va de la santé des démocraties occidentales, car l'impôt, le consentement à l'impôt, est au cœur du pacte républicain, au cœur du contrat social, en quelque sorte. Mais ça a une conséquence, bien évidemment, sur les finances publiques. Et là,
oui, c'est ce dont je vais vous parler maintenant. Donc en fait, l'article dont je comptais vous parler a été publié cette année par la prestigieuse revue économique du MIT, donc le Quarterly Journal of Economics. Son auteur est un jeune économiste français qui est passé par l'ENS Cachan puis la Paris School of Economics avant de partir outre-Atlantique, et qui s'appelle donc Gabriel Zucman, qu'il a écrit en plus sous l'égide d'un économiste que nous connaissons bien, Thomas Piketty. Le titre exact de l'article est « La richesse manquante des nations, l'Europe et les USA sont-ils des débiteurs nets ou des créanciers nets ?»
Alors, je t'interromps, Aliette. Tu me parles d'un article économique de surcroît écrit en anglais dans une revue prestigieuse. J'ai envie de te demander tout simplement si l'étudiant lambda peut s'y confronter sans trop de problèmes.
Alors justement, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai choisi cet article. Il est intéressant à plusieurs regards, et notamment parce que sa forme est assez inhabituelle. C'est un article facile à lire, qui contraste beaucoup avec certains articles d'économie qui deviennent très vite très techniques. Là, au contraire, on s'attache plutôt au sens de sa démarche, ce qui est quand même bien dans l'esprit de notre émission. Et donc, avant tout, il porte sur l'évasion fiscale, mais il touche aussi à d'autres problématiques très actuelles, notamment tout ce qui concerne les marchés financiers et les longues chaînes d'intermédiaires qu'on peut constater et qui causent une certaine opacité très problématique, et aussi le lien qu'il fait avec les dettes des États et leurs politiques publiques.
D'accord. Alors, on a vu auparavant que une richesse manquait du fait de la fraude fiscale. Les États se font chaque année amputer d'une partie de leurs ressources par ces mécanismes.
Voilà, exactement. Donc là, cette fois-ci, en fait, on se place au niveau mondial. Et cette richesse manquante du titre de l'article, c'est bien entendu celle qui échappe au gouvernement à cause de l'évasion fiscale. Donc, pour ses recherches, Zucman utilise en fait une base de données suisse qui est encore peu utilisée par les chercheurs. Et il en arrive à la conclusion que... ça représenterait 8% de la richesse mondiale des ménages qui seraient donc détenus dans les paradis fiscaux et dont les trois quarts ne sont pas enregistrés par les statistiques mondiales.
Ah, c'est colossal.
Donc ça représente 6% de la richesse mondiale des ménages qui n'est pas vraiment enregistrée. Mais ce qui est aussi intéressant dans le travail de Gabriel Zucman, c'est qu'il ne fait pas qu'utiliser cette base de données qui déjà est très intéressante, mais il met aussi en œuvre une méthode qui est assez innovante et pourtant très simple pour essayer de faire émerger cette richesse manquante, en fait de la comptabiliser, parce que c'est ça qui est un peu le problème ici. Quand une transaction a lieu, naturellement, il y a une personne qui vend un actif et une personne qui achète l'actif. Et bien sûr, on peut comptabiliser la transaction des deux côtés. Si on compare après la somme des actifs et la somme des créances, c'est-à-dire d'une part comptabiliser du côté de ceux qui achètent et comptabiliser du côté de ceux qui vendent, on imagine bien qu'à la fin, le total doit être égal.
Oui.
Puisqu'il y a forcément autant de gens qui achètent qu'autant de gens qui vendent.
Tout à fait.
Oui, donc en fait, c'est juste une question de flux. La richesse passe d'une main à l'autre, mais elle ne devrait pas changer. Donc quand on l'examine d'un côté et de l'autre, ça doit être égal. Or, on se rend compte que justement, si on compare ces deux sommes, le monde entier serait débiteur net, c'est-à-dire qu'en fait, nous devons de l'argent aux extraterrestres. On peut évidemment mettre en avant les erreurs statistiques, donc les erreurs en fait dans la comptabilisation de ces chiffres, mais elles ne peuvent expliquer à elles seules un écart que Gabriel Zucman évalue quand même à 4,5 trilliards de dollars.
D'accord.
Ce qui est quand même vraiment énorme. Mais bon, c'est au niveau mondial, mais il s'agirait bien des sommes résultant de l'évasion fiscale.
D'accord. Et bon, on a vu tout à l'heure que la fraude fiscale n'était pas forcément le fait de de gros poissons qui avaient beaucoup d'argent, mais que ça pouvait être le fait de tout le monde. Sur un plan international, qui fait de la fraude fiscale concrètement sur un plan international?
Bah alors justement, c'est un peu la même idée, c'est-à-dire contrairement à un cliché répandu, l'essentiel de l'évasion fiscale n'est pas le fait de dictateurs africains ou d'investisseurs asiatiques, mais vient bien des pays riches, à hauteur environ de 60%, dont un tiers quand même pour la zone euro. Donc on constate qu'en fait, il s'agit de circuits assez longs, c'est-à-dire qu'il y a d'une part l'évasion fiscale en ce qui concerne les comptes bancaires, donc ce serait plutôt à travers les banques suisses par exemple, mais aussi en ce qui concerne les actifs, et donc directement dans les fonds de placement qui gèrent les portefeuilles des individus. Et donc là, c'est plutôt Luxembourg, l'Irlande, les îles Caïmans ou encore Jersey. Et on voit qu'il y a quand même un problème en ce qui concerne les statistiques internationales, puisque l'idée, c'est qu'elles n'ont pour les ménages que des sources indirectes à travers lesquelles chiffrer donc les actifs possédés par les individus ou vendus par les individus, c'est-à-dire elles comptabilisent à travers les entreprises financières dont ces individus sont les clients. Donc le principe fondamental vraiment pour chiffrer ces données, c'est le principe de résidence, et c'est l'idée que quand il y a un pays dont un résident vend un actif et un autre pays dont un résident achète un actif, c'est bien par rapport à ces deux pays-là que vont être comptabilisées la transaction.
Oui.
Donc la Suisse, qui abrite juste le compte bancaire, en fait, ne va pas comptabiliser la transaction elle-même, ce qui est problématique dans le cas de l'évasion fiscale, puisqu'on se retrouve avec cette situation où, par exemple, imaginons que Cyril, tu es donc français, tu achètes un actif à un résident américain ou à une entreprise américaine, mais tu le fais avec un compte en Suisse. Donc le résultat, ça va être...
J'ai un compte en Suisse, d'ailleurs.
D'ailleurs, tu as un compte en Suisse, bien sûr. Trêve de plaisanterie, donc l'actif que tu vas acheter va être comptabilisé aux États-Unis puisque c'est un résident américain qui va te le vendre. Par contre, la France ne saura pas que tu l'as acheté puisque tu l'auras acheté à travers ton compte en Suisse.
Oui.
Tu vois. Et donc, la France ne va pas le comptabiliser, et la Suisse, selon le principe de résidence, puisque tu n'es pas résident suisse, ne va pas le comptabiliser non plus.
D'accord.
Donc, on va avoir une asymétrie. D'un côté, aux États-Unis, la transaction va être comptée, alors que de ton côté, en France, elle ne va pas l'être.
D'accord.
Donc c'est comme ça qu'on peut voir en fait un écart qui se creuse entre ces deux sommes dont nous avons parlé, d'une part les actifs et d'une part les créances.
D'accord.
Donc a priori, non, nous n'avons pas découvert l'existence d'extraterrestres avec des centres financiers très conséquents. Les conséquences, si on prend en compte ces richesses manquantes, sont en fait assez étonnantes. C'est-à-dire que lorsqu'on examine la position extérieure des pays concernés, on a les résultats suivants. La zone euro devient créditrice nette. Du côté des USA, c'est un peu moins bien, mais enfin, leur position est quand même nettement améliorée. Ça a quand même des conséquences vraiment, vraiment très importantes. On parle tout le temps de l'état de dette des pays européens, des États-Unis, des pays riches d'une manière générale. Bon, ce serait peut-être un peu à nuancer. Et une autre anomalie aussi que Zucman mentionne, qui concerne cette fois les flux de richesses entre les pays riches d'une part et les pays pauvres de l'autre, c'est-à-dire savoir en fait la richesse circule de quel point à quel point. Et jusqu'il y a quelques années, c'était quand même essentiellement des pays pauvres vers les pays riches, c'est-à-dire que c'était les pays pauvres qui avaient les dettes qu'ils devaient aux pays riches.
Oui.
Et les statistiques récentes montreraient que cette dynamique se serait en fait inversée, c'est-à-dire que les dettes seraient maintenant du côté des pays riches, tandis que les pays pauvres posséderaient les actifs. Et c'est quand même une anomalie assez énigmatique, parce que ça correspond pas avec tout un tas d'autres données dont on dispose. Et en réalité, si on prend en compte donc cette richesse manquante que Zucman estime, on voit que bien que cette tendance se soit atténuée, les pays pauvres continuent toujours à rembourser leurs dettes auprès des pays riches.
D'accord. Mais alors du coup, bon, cette fraude fiscale à l'échelle internationale, j'imagine qu'elle doit avoir des conséquences importantes sur les politiques publiques, tout simplement, sur l'état
alors,
de nos finances.
En fait, Zucman mentionne deux conséquences. Les premières sont évidemment sur les politiques économiques, puisque l'état des finances publiques, notamment en ce qui concerne la dette d'un pays, va déterminer grandement sa marge de manœuvre, en fait. En particulier, on l'a pu le voir avec la crise des dettes souveraines dans la zone euro, ça définit les conditions d'emprunt d'un pays, notamment le taux, mais aussi d'autres modalités. Mais donc, finalement, ça détermine sa capacité d'emprunt. Et sachant que l'emprunt a quand même une grande part dans les finances publiques d'un État, ça détermine sa marge d'action pour ses politiques en général, d'une manière assez importante. Donc en fait, si on prend en compte cette richesse manquante, ça peut carrément changer la donne au niveau d'un certain nombre de politiques publiques.
Oui, c'est ça, parce que si on accepte de nous prêter à un taux de 2% au lieu d'un taux à 1%, eh ben, ça fait augmenter les intérêts de parfois plusieurs millions ou milliards d'euros.
Voilà. Donc, ce n'est pas rien. Après, ça peut causer des paniques sur les marchés financiers, comme on a pu le voir récemment. Enfin, ça a tout un tas de conséquences vraiment non négligeables. En fait, ça dépend un peu des pays, parce qu'en France, actuellement, les taux d'emprunt sont quand même assez bas.
Très bas,
oui. Oui. Historiquement bas, on peut même le dire. Mais on a toujours cette crainte qu'il remonte, qu'il se passe tout un tas de dynamiques pas forcément très favorables, et que justement, ça devienne un problème tout d'un coup, qu'on soit confronté à ce problème d'une dette qui devienne insoutenable, comme on a pu le voir dans d'autres pays européens. Donc c'est vraiment important. Il y a eu aussi une autre conséquence que Zucman mentionne, qui est intéressante, qui est cette fois une conséquence pour la recherche, c'est-à-dire comment améliorer les statistiques internationales, puisqu'on voit qu'il y a toujours une part d'erreur qu'on peut difficilement compresser, mais là, quand même, il semble possible d'améliorer les choses, et lui, il propose deux mesures. La première serait d'adopter un mode de calcul qui soit basé sur la propriété effective des titres, c'est-à-dire ce que j'ai expliqué. Oui. Avant, le principe de résidence, que donc on arrive à comptabiliser en fait des deux côtés des transactions, ou que soit le compte auprès duquel se fait la transaction, mais aussi demander en fait à tous les paradis fiscaux d'échanger un certain type de données sur les portefeuilles offshore, qui en fait ne compromettent pas le secret bancaire et pour l'instant sont fournis par la Suisse par exemple, donc c'est vraiment D'accord, pas ah oui. quelque chose d'impossible ou d'extravagant à demander, mais c'est vraiment le seul pays à le faire pour le moment, et on pourrait peut-être essayer de négocier pour que voilà, les statistiques internationales puissent prendre en compte un plus grand nombre de données.
Chers auditeurs, nous arrivons au terme de ce premier numéro de Tina, There is no alternative, avec un accent merveilleux. Merci à tous de nous avoir suivis. On espère vous avoir appris pas mal de choses.
Et peut-être ne pas vous avoir trop incité non plus à essayer de frauder.
Voilà, vous savez les risques que vous encourez.
La semaine prochaine, à Lyon, il va y avoir un week-end très important en ce qui concerne les conférences d'économie, les journées de l'économie. Et Transistor sera là avec ses micros pour des petites interviews avec les intervenants qui ont bien voulu nous rencontrer. Donc ne manquez pas bientôt la mise en ligne de toutes ces petites interviews qui seront sans doute intéressantes. Vous pouvez d'ailleurs aller consulter celles des années précédentes. On en a déjà fait un certain nombre.
On se dit à très bientôt pour un nouvel épisode de Tina, There is no alternative. I am Billy Big Box, king of the universe. Until the music stopped and it all went in reverse. Now it has all crashed, my world is gone, and I don't know what the heck is going on. Where's my money, where's my bonus? And it looks like it's all hocus pocus.